Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accouchement de la nouvelle Commission européenne est difficile. Il a d'abord fallu plusieurs conseils européens pour lui trouver une présidente, l'allemande Ursula von der Leyen. Celle-ci n'a obtenu l'approbation du Parlement européen que par 9 voix, soit la plus petite majorité de l'histoire du poste. Elle a dû ensuite composer avec les nominations tardives des commissaires par les États membres et leurs exigences en matière d'attribution. Deux membres de son équipe ont déjà été retoqué avant même les auditions par les commissions du Parlement. La Commission européenne est-elle affaiblie avant d'entrer en fonction ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Sébastien Maillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors et Patrick Martin-Jeunier, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des questions européennes, vous êtes également enseignant à Sciences Po et auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» aux éditions Studirama. Depuis hier et jusqu'au 8 octobre, les commissaires européens désignés par les États membres sont donc auditionnés par les eurodéputés. Deux d'entre eux ont déjà été retoqués pour cause de possibles conflits d'intérêts. Est-ce que c'est déjà arrivé, Sébastien Maillard?
C'est la première fois que ça arrive aussitôt. C'est-à-dire qu'effectivement, vous parlez des candidats hongrois et roumains. Il y a déjà eu dans le passé des candidats qui ont été retoqués pour conflit d'intérêts, mais c'est la première fois que ça arrive avant même le début des auditions par la seule désapprobation de la commission des affaires légales, de la commission juridique, qui a jugé effectivement que leur candidature était irrecevable. Et ce qui est aussi frappant, c'est que finalement, les deux pays ont tout de suite réagi, c'est-à-dire qu'ils ont proposé une autre personne à la place. Il n'y a pas eu d'autres conflits que ça. Mais effectivement, c'est un poids nouveau donné au Parlement européen, notamment à ce stade préalable aux auditions.
Ça veut dire qu'ils s'y attendaient peut-être en Hongrie et en Roumanie. Patrick Martin-Jeunier, le Parlement européen est de mauvaise humeur?
Écoutez, je ne sais pas s'il est de mauvaise humeur, mais il est dans son rôle tout de même. Il est dans son rôle de contrôle démocratique. Faut voir dans quelles conditions Madame von der Leyen a été élue et désignée présidente de la Commission européenne. Vous l'avez dit, elle a été élue qu'à une courte voie de majorité. Et en fait, elle a été imposée, après qu'Emmanuel Macron, Angela Merkel, ait imposé au final cette personne, alors que le président français avait rejeté le Spitzenkandidat, c'est-à-dire que normalement c'était Monsieur Manfred Weber qui devait l'être. Donc effectivement, le Parlement européen a des raisons d'être en colère, mais il n'est pas de mauvaise humeur. Il est dans son rôle lorsqu'il dit que certaines personnalités pressenties ne peuvent être commissaires européens pour différentes raisons, donc notamment des conflits d'intérêts.
Ces auditions, c'est une pratique inspirée par ce qui se passe aux États-Unis avant la nomination des ministres, Sébastien Maillard ?
C'est en effet inspiré des hearings qu'on connaît aux États-Unis. C'est à ma connaissance unique en Europe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'équivalent dans les parlements nationaux. On sait que Emmanuel Macron, durant sa campagne présidentielle, avait fait une promesse de campagne que les ministres nommés seraient aussitôt auditionnés. Ça a été le cas d'ailleurs l'été 2017, les ministres en question ont été nommés, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui au Parlement européen, c'est-à-dire que leur siège n'était pas en jeu. C'était des auditions qui se sont bien passées, qui sont plutôt passées inaperçues. Là, effectivement, c'est sérieux. C'est une tradition qui, au Parlement européen, existe depuis maintenant 20 ans, depuis 99, mais ça devient, au fil des exercices, de beaucoup plus en plus exigeant. Feu Jacques Barrot disait que c'était plus dur que le grand tour de l'ENA.
C'est une procédure qui permet un meilleur contrôle démocratique, vous le disiez, Patrick Martin-Jeunier, d'une Europe qui est largement perçue comme technocratique. C'est une sorte d'antidote à cette perception d'une Europe technocratique?
Oui, parce que le Parlement européen est le seul représentant du peuple. C'est-à-dire les députés européens sont élus directement par les peuples européens, les électeurs européens, et les gouvernements interviennent dedans. Donc c'est une façon de contrôler, effectivement. Je voudrais rappeler quand même l'article 17 du traité qui dit que les commissaires sont choisis en raison de leurs compétences, mais également de leur engagement européen, et parmi des personnalités qui offrent toute garantie d'indépendance. Donc ça veut dire que les personnalités qui sont pressenties doivent être européens ou européennes. Quand on regarde ce qui se passe en Hongrie ou en Pologne, on n'a pas parlé du commissaire polonais, mais a priori il n'y connaissait rien en matière de politique agricole commune, donc il va subir une session de rattrapage. Il faut être indépendant et au-dessus de tout soupçon en termes de conflit d'intérêts et d'honnêteté, de probité. C'est cela aujourd'hui que le Parlement européen essaie de démontrer au peuple qui effectivement reproche à l'Union européenne d'être peut-être trop technocratique, et le Parlement européen est cet instrument démocratique qui permet de contrôler en effet tous ces critères pour être commissaire.
Sébastien Maillard.
On se souvient effectivement que Charles de Gaulle se moquait de cet, je cite, aéropage de technocrates apatrides à propos de la Commission européenne. Là, ces auditions, effectivement, ça permet aux commissaires désignés de recevoir l'onction démocratique. Donc, pour reprendre votre question de départ, est-ce que ça affaiblit la commission? Je pense que ça peut lui donner, peut-être au contraire, un peu plus de légitimité démocratique aux yeux des gens. Et en tout cas, ça peut aussi prévenir des erreurs de casting. Mm-hmm. Parce qu'on aurait pu, avec sans audition, se retrouver plus tard avec des conflits ou des personnes effectivement peut-être pas assez compétentes. Et ça peut prévenir quelques erreurs.
Vous diriez, Patrick Martin-Jeunier, qu'on est dans un processus totalement normal, ou est-ce que la commission est un petit peu en difficulté? Est-ce qu'on on tire un peu l'oreille, quoi?
Je pense que quand même la commission est clairement en difficulté sur plan politique. Lorsqu'on a une petite majorité de 9 voix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fidesz de M. Orban a voté pour Mme von der Leyen, ça veut dire que les Roumains ont voté pour elle, ça veut dire que d'autres pays ont voté pour elle, et par conséquent, quelque part, on voit bien qu'elle essaye de renvoyer l'ascenseur. Elle a dit que, par exemple, pour les pays du groupe de Visegrad, il fallait comprendre un certain nombre de différences. Or, ce sont des pays qui se sont inscrits en faux contre les valeurs de l'Union européenne. Par conséquent, même Mme von der Leyen, qui était ministre de la Défense dans son pays, n'a pas nécessairement géré correctement le ministère de la Défense. Donc elle était elle-même déjà en position de faiblesse. Et le fait que dans cette commission et les commissaires pressentis, il y ait des personnes qui ne soient pas, soit qui sont soit en indélicatesse avec la justice, soit effectivement, eh bien, qui ont peut-être quelques faits à se reprocher, fait que d'emblée, cette commission est manifestement affaiblie.
Est-ce que... Sylvain Maillard,
Sébastien Maillard. Ce qui peut l'affaiblir, c'est qu'elle se retrouve un peu au centre d'un jeu entre, d'un côté, la légitimité que donnent les députés européens à cette commission, et qui vont d'ailleurs peser autant qu'ils peuvent sur les portefeuilles et sur qui fait quoi, mais aussi la légitimité... qui est réel aussi, des chefs d'État et de gouvernement qui disent « mais nous, on a été élus et on a le droit aussi de nommer cette commission et le traité prouvera comme ça ». Donc elle est un peu à équidistance des deux. Et il y a une logique, je dirais, des citoyens à travers les élections européennes qui disent « mais c'est à nous de nommer cette commission » et les chefs d'État, la France en tête, qui dit « c'est à nous de la nommer ».
Ursula von der Leyen est face à une équation impossible. Je vous demande votre avis à tous les deux. Patrick Martin-Jeunier d'abord.
Je ne sais pas si c'est impossible, mais c'est une équation délicate, en effet, parce que la Commission européenne doit être indépendante. C'est l'exécutif européen, elle est censée représenter le gouvernement européen et elle ne doit pas recevoir d'instructions des États membres. Et que voit-on depuis le début? Il y a un certain nombre de pressions des États. Alors on peut considérer que c'est normal, mais il y a eu des appels téléphoniques à Mme von der Leyen pour lui dire voilà, j'aimerais que par exemple Mme Goulard, elle ait le portefeuille marché intérieur.
Ça, c'est pas nouveau d'ailleurs.
Défense, ce n'est pas nouveau. Fait. On se bat pour avoir effectivement des directions générales sous sa direction. Et donc, ce n'est pas nouveau, mais c'est vrai que c'est une commission qui, dans semble être un peu sous tutelle des chefs d'État et de gouvernement et en indélicatesse sur le plan démocratique avec le Parlement européen.
Sébastien Maillard, c'est sur cette question des équilibres, de l'équation.
Je serais moins sévère. C'est vrai que c'est devenu un grand jeu d'équilibre Est-Ouest, la paritaire, Nord-Sud. Donc il y a effectivement les différentes forces partisanes entre chrétiens-démocrates, sociaux-démocrates et libéraux à équilibrer. Mais ce qui peut-être la solution qu'a essayé de trouver Madame von der Leyen, c'est et ce qui est peut-être nouveau là par rapport aux précédentes commissions, c'est que on peut s'attendre à ce qu'elle soit pas, certes elle sera présidente de cette commission, mais elle a décidé de gouverner avec d'autres, c'est-à-dire qu'il y a 3 vice-présidents exécutifs, Monsieur Timmermans, Madame Vestager, qui lui ont été plus ou moins imposés, et plus elle a elle-même rajouté Monsieur Sefcovic, et donc du coup ça veut dire que ce sera une sorte de tétrarchie plutôt qu'une seule présidente qui gouverne seule.
Patrick Martin-Jeunier.
Oui, je pense qu'elle a manqué d'emblée d'autorité politique. Je ne peux pas être excessivement sévère avec elle, mais compte tenu des modalités de son élection, de sa nomination, elle avait un certain nombre d'ascenseurs à renvoyer, notamment à la Hongrie et d'autres États. Elle aurait dû faire preuve d'autorité politique en refusant d'emblée, par exemple, le candidat hongrois ou la candidate roumaine qui était en indélicatesse sur le plan de la déontologie politique, et par conséquent n'a pas eu le courage de le faire parce qu'elle devait des choses à ses États. En conséquence de quoi, elle a attendu que ce soit la commission juridique du Parlement européen qui retoque ses candidats, et d'emblée, elle a montré qu'elle n'avait peut-être pas l'autorité politique nécessaire. Et aujourd'hui, elle risque en effet de voir d'autres candidats refusés, notamment le candidat polonais qui est censé s'occuper de l'agriculture et qui a montré lors de ses auditions qu'il n'y connaissait strictement rien en matière de politique agricole commune.
Sébastien Maillard.
C'est vrai que, vous l'avez dit, elle a été élue avec seulement 9 voix de majorité, donc avec beaucoup de voix contre, très peu d'abstention, mais des voix contre, effectivement, à cause d'un Parlement un peu remonté, de s'être fait voler cette nomination. Mais peut-être sa seconde chance, je dirais, ce sera lors de ce qu'il y aura le vote de confiance pour l'ensemble du collège, en fonction des remaniements qu'elle aura pu faire, peut-être des portefeuilles qui ont été revus, même des appellations des portefeuilles qui sont aussi un sujet de controverse. Si elle se représente devant ce Parlement avec l'ensemble du collège et qu'il y a un vote qui est supérieur, on peut espérer à 9 voix, je dirais là, elle aura peut-être une vraie force démocratique.
C'est 9 voix, et puis ces messages hein, de deux commissaires retoqués de la part des eurodéputés, c'est un message à Ursula von der Leyen elle-même ou c'est un message du Parlement au chef d'État et de gouvernement, Patrick Martin-Genis?
Je crois que c'est les deux. Hein, c'est-à-dire que compte tenu des modalités de nomination de Mme von der Leyen, c'est de dire par exemple très clairement à Emmanuel Macron, vous nous avez imposé cette personne, donc il n'y aura pas,
pas de cadeau.
Pas de cadeau pour vous, pour Mme von der Leyen, qui par ailleurs a sans doute des qualités. Hein, il n'est pas question de mettre en cause les qualités de cette présidente. Néanmoins, comme elle a été imposée par les chefs d'État et de gouvernement, c'est un message très clair aux chefs d'État et de gouvernement, notamment à Emmanuel Macron, mais c'est également un message à Mme von der Leyen, et en effet, pour lui montrer que si elle veut obtenir une plus grande majorité lors de l'investiture de la Commission, en gros, vous me pardonnerez l'expression, mais il faut faire le ménage.
Sébastien Maillard.
Certes, vous pouvez dire que tout ceci peut affaiblir la Commission. Encore une fois, je pense que ça peut, si on va plus loin, ça peut la prévenir certains conflits. Et par ailleurs, je trouve cet exercice des auditions parlementaires qui sont, rappelons-le, publiques, en direct. D'ailleurs, on peut les écouter dans la langue qu'on veut, les 24 langues. C'est aussi...
Et même en français, parce qu'il y a une petite polémique
on peut écouter complètement français. D'ailleurs, Sylvie Goulard, aujourd'hui, a montré qu'elle possédait beaucoup de langues. Mais en tous les cas, c'est aussi, une façon de redorer le blason de la démocratie représentative. Aujourd'hui, elle est un peu mise à mal, on le voit en Angleterre avec la crise de Brexit, ou on l'a vu en France avec les Gilets jaunes. Montrer que le Parlement européen a ce poids, a cette possibilité de reconfigurer la Commission, je pense que vraiment c'est une façon aussi de montrer que la démocratie représentative a du sens.
On a parlé des grands équilibres Est-Ouest, de la volonté d'influence, notamment de la France, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est mal de dire ça, mais je vais le dire quand même, des grands pays européens. La présidente de la Commission a dû composer également avec des nominations tardives de la part des États membres, notamment la France d'ailleurs, et puis
l'Italie,
oui, ça pour des raisons politiques. Ça n'a pas été facile pour elle de composer son équipe, Patrick Martin-Genis.
Non, pas du tout, parce que en général, ce sont les États. Alors d'abord, elle a un mérite, c'est d'avoir une commission quasiment paritaire, hein, effectivement, entre les hommes et les femmes.
Elle
l'avait exigé et elle a le pouvoir de le faire. Ça a montré qu'elle avait aussi le pouvoir de refuser un certain nombre de commissaires. Ça n'a pas été facile car vous savez que la France a hésité jusqu'au dernier moment à proposer Madame Goulard qui manifestement posait quelques difficultés. C'est l'Élysée qui l'a imposé. Et puis l'Italie, comme vous le dites, Monsieur Gentiloni qui a été nommé. Il fallait attendre que la crise gouvernementale soit terminée. Donc effectivement, ça a été un peu laborieux pour certains États, ce qui rajoute encore à l'aspect un peu difficile de la composition de cette commission.
Sébastien Maillard.
On est quand même avec, au jour d'aujourd'hui, 28 États membres. Bon, alors, le Royaume-Uni n'a pas proposé de commissaire. Et c'est vrai qu'il faut trouver un portefeuille aujourd'hui pour 27 personnes. On pourrait un jour imaginer une commission un peu plus réduite, parce qu'effectivement, peut-être n'a pas besoin d'avoir un commissaire par pays et ça participe à cette logique que c'est mon commissaire de mon pays. Donc effectivement, ça pose problème. Elle a essayé de surmonter, comme déjà avait essayé de le faire son prédécesseur Jean-Claude Juncker avec ses vice-présidents qui ont un rôle un peu au-dessus. Ça crée une hiérarchie au sein de la commission. Mais aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à l'Europe, je dirais, d'avant, faire monter cette commission avec les désirs d'arata de chacun des pays, c'est un vrai casse-tête. Elle a quand même plutôt réussi à trouver un équilibre savant à ce stade.
Patrick Martin-Genis, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus?
Oui, je voulais dire qu'il est temps aujourd'hui de réformer les institutions, car on disait qu'il faudrait une commission plus réduite. Mais c'est prévu dans le traité sur l'Union européenne. Normalement, depuis 2014, on aurait dû avoir une commission composée uniquement des 2/3 des États membres. Eh bien, le Conseil européen n'a toujours pas décidé sur ce point. On ne peut pas continuer à avoir une commission qui, avec les futurs élargissements, pourrait comprendre jusqu'à 30 commissaires. Ce n'est plus possible. Donc, il faut rationaliser la gestion de cette commission et réformer les institutions.
Je voudrais revenir, Sébastien Maillard, sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit qu'il y avait des vice-présidents qui encadraient en fait Ursula von der Leyen, qui étaient
qui allaient gouverner
avec elle, mais qui étaient évoqués pour être président de la Commission eux-mêmes, Frans Timmermans, Margrethe Vestager. Ça aussi, ça participe à l'affaiblir.
Alors c'est nouveau, c'est des lots de consolation pour eux. D'ailleurs, effectivement, c'était pour certains qui s'y voyaient déjà peut-être un peu dur à avaler, mais c'est nouveau. Et c'est c'est une façon aussi de l'aider à mieux gérer cette commission, parce qu'eux-mêmes ont bien plus d'expérience qu'elle. Elle est, je dirais, plus nouvelle aux affaires européennes. Donc, ça, je ne sais pas si ça l'affaiblit, peut-être, par contre, que ça peut renforcer la commission elle-même pour être plus légitime au regard des autres partis. C'est un équilibre entre chrétiens-démocrates, sociaux-démocrates et libéraux.
Oui, c'est une équipe plus compacte, ça donne ça, Patrick Martin-Genier ?
Oui, enfin, c'est un gros lot de consommation, comme vous dites, parce que c'est susceptible, ils vont prendre les décisions à trois, c'est un trio en réalité, parce que Mme von der Leyen, compte tenu de ses modalités de sa nomination, est affaiblie, ça peut renforcer, mais en même temps, effectivement, c'est un trio qui va gérer, peut-être de façon un peu plus collégiale, cette commission.
Même avec un trio, parce que M. Dombrovski est aussi vice-président exécutif.
Vice-président exécutif. De l'Est. Et le problème aujourd'hui, c'est de se répartir les différentes directions générales, et plus vous chapeautez de direction générale à la commission, plus vous avez du pouvoir.
Est-ce que ces négociations, ce problème de ménager les équilibres, est-ce que c'est ça qui a conduit à la création du portefeuille contesté, intitulé un peu étrange, la protection du mode de vie des Européens, qui a tant fait parler Sébastien Maillard ?
Je ne sais pas si c'est la logique derrière, et c'est vrai que c'était un peu un clin d'œil aussi aux Hongrois, mais aussi même plus largement au PPE aussi, qui en avait fait un de ses secondes campagnes. Il y a plusieurs façons d'interpréter cela. Je voyais que Sylvie Goulard, aujourd'hui, dans son audition, disait qu'avec les changements climatiques et autres, le mode de vie européen, de toute façon, devait changer. Mais c'est peut-être que là, il y a aussi une tempête dans un verre d'eau, au sens où, au-delà de l'appellation, il faudra voir effectivement quelle est l'ambition réelle de cette commission, en l'occurrence sur la matière migratoire.
Patrick Martin-Genier, oui, c'est la question migratoire, c'est une des grandes questions européennes de ces derniers mois, de ces dernières années quand même.
Mais, oui, bien sûr, mais ce qui est maladroit, c'est d'avoir associé le mode de vie à l'immigration. C'est ça qui est mal perçu. Qu'on protège un mode de vie européen, personne ne va le contester. Hein, la protection sociale, l'environnement, l'écologie, l'égalité des chances, tout ça, c'est un mode de vie européen très important, mais qu'on la colle à l'immigration, c'est très mal passé. En revanche, vous avez raison, la commission a décidé d'axer son action sur la protection des frontières, le renforcement des gardes-côtes frontières, etc. Donc ça, c'est très important, et devrait d'ailleurs tripler son budget, qui va être voté bientôt, pour la protection des frontières. Donc ça, ce n'est pas illégitime. Ce qui a été encore une fois maladroit, c'est de relier l'immigration au mode de vie européen.
Sébastien Maillard.
C'est une maladresse, mais ce qui est au-delà de cette appellation-là, ce qui était frappant dans la présentation de la nouvelle commission, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup de portefeuilles qui avaient des noms, on va dire un peu marketing, qui avait été trouvé, je pense, à mais qui sont intéressants à étudier, enfin, démocratie et démographie, valeur et transparence, il y a aussi prospective, donc il y a eu des nouveaux noms trouvés plutôt que les traditionnels marché intérieur, concurrence et autres, et donc dans la tentative, avant tout, en tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté, pour rapprocher l'Europe du citoyen, pour qu'il se reconnaisse mieux dans ses appellations. Ça, faudra voir effectivement si ça a marché.
C'est très nouveau monde. Est-ce que cette commission entrera en fonction le 1er novembre ? Est-ce qu'on pourrait, c'est de la politique fiction, il nous reste très peu de temps, est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une situation d'une Europe sans tête et d'un Brexit sans accord ? Patrick Martin-Genier.
Alors, s'agissant du Brexit, c'est mal parti, parce que Boris Johnson vient de prononcer un discours, il vient de faire des propositions sur le backstop absolument inacceptable pour l'Union européenne et l'Irlande. Et s'agissant de la Commission européenne, le vote doit intervenir au Parlement européen, je crois, autour du 21-22 octobre. On verra bien. Il y a plus de chances d'avoir une tête à la Commission que d'avoir une sortie ordonnée du Brexit.
Sébastien Maillard, votre avis ?
Peut-être que ça peut être retardé de quelques semaines. Ce serait pas un drame, parce que c'est déjà arrivé. Et on le voit d'ailleurs à quel point dans nos pays nationaux, combien de temps il faut pour après des élections pour avoir un gouvernement. Regardez l'Espagne, regardez la Belgique, regardez l'Allemagne, l'Italie. La 5e République est une exception, peut-être. Mais en tous les cas, l'Europe ne fait pas pour ça exception.
Merci Sébastien Maillard. Merci à vous également, Patrick Martin-Genier, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination. Simon Carteret à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.